Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des maternelles. C'est Benjamin Muller et je suis ravi de vous retrouver ce mercredi. Donc, comme chaque jour, on remet ici en ligne l'une des séquences fortes de l'émission, diffusée le matin même sur France 2. Et justement, ce matin, on a parlé d'un sujet qui concerne de nombreux parents, de nombreuses familles et donc forcément de nombreux enfants. Les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, ces TOC qui peuvent désarçonner, voire énerver les parents, surtout quand parfois ces TOC commencent à prendre trop de place dans la vie des petits et donc de la famille. Écoutez Céline, la maman d'Iliès qui a 9 ans, Céline qui est venue nous voir ce matin, elle est avec Agathe Legard.
Bonjour Céline.
Bonjour.
Merci d'être sur le plateau de la Maison des Maternelles pour venir nous raconter votre histoire. Vous habitez à Sifour-les-Plages. Vous avez 2 enfants, dont Iliès qui a 9 ans. Alors je précise qu'il avait un jumeau, Iliès, mais qui est mort malheureusement à la naissance. C'est important de le dire parce qu'on en parlera après. D'accord. Avec notre expert. Depuis qu'il a 3 ans, il souffre de TOC. Il y avait eu quand même des prémices avant. Hein. Vous posiez quelques questions, mais je dirais qu'à 3 ans, vraiment, vous êtes dit, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Est-ce que vous pouvez donc nous expliquer quels sont les TOC propres à Iliès et comment est-ce qu'ils sont apparus ?
Alors, je dirais à peu près vers l'âge de 1 an, les premiers TOC sont apparus lors de l'alimentation. Mm-hmm. Lors du repas, je m'apercevais qu'il triait tout, en fait. Il séparait bien la viande des féculents, les féculents avec les légumes. Il séparait tout, en fait. Il triait spontanément.
Dès un an.
Mais je me suis pas inquiétée du tout. J'ai laissé le temps faire. Et puis, la situation s'est aggravée vers l'âge de 3 ans, où là, il a commencé à présenter des TOC vestimentaires. Ça s'est amplifié avec le temps.
Il y a eu notamment un jour où il est arrivé où ça a été une grosse crise.
Complètement. J'étais en compagnie de ma maman et nous étions en train d'échanger. Iliès était dans la chambre. Et il est arrivé en hurlant, en fait. Donc on se regardait, il me montrait qu'il se sentait en fait étouffé. J'ai pensé en premier à une ingestion, en fait, d'un Lego.
Il pensait qu'il s'étouffait, voilà. Quoi.
Et donc je suis allée vers lui, j'essayais de comprendre malgré cette crise. Et il me montrait toujours qu'il se sentait étouffé. Donc là j'ai regardé, j'ai ouvert la bouche. J'ai regardé à l'intérieur, je ne trouvais rien. Donc je lui demande ce qui se passe, il continue à hurler. Et là, il se prend d'une crise, en fait, intense. Et il m'arrache tous les boutons de la chemise en hurlant. Je n'arrive plus à respirer. Donc ma mère et moi, nous nous regardons et on ne comprend pas, en fait. Et de ce jour, en fait, il n'a plus jamais mis de chemise.
Pour vous, ça a dû être...
Violent.
Très choquant quand même cette scène.
Violent, en fait. C'est vraiment le mot, c'est violent. Il n'y a pas de mode d'emploi.
Et là, pour parler concrètement du TOC sur les vêtements, donc là, il y a la chemise, donc il ne supporte pas.
Oui.
Il y a d'autres vêtements qu'il ne supporte pas.
Tout ce qui est serré, les pantalons serrés, les jeans slim, c'est banni de la garde-robe. Je l'habille essentiellement de survêtements, vêtements amples. Alors, en fait, il faut faire un travail sur soi, se dire, j'en ai déjà parlé aux personnes qui suivent Iliès, pour expliquer que parfois, je lave fréquemment les mêmes vêtements pour toujours lui remettre les mêmes, pour qu'il se sente à l'aise et qu'il parte à l'école avec un bon départ, pas avec ce
ça,
stress.
En fait, c'est tout ce qui le contraint. Donc, par exemple, les chaussettes, c'est compliqué aussi.
Les chaussettes, ce qui est compliqué, c'est qu'il ne faut pas que ça dépasse trop. Il ne faut pas que la couture soit tournée à l'intérieur, sinon il va systématiquement enlever les chaussures et les remettre, même si on est en train de marcher. On peut partir à l'école sur le trajet, si ça le dérange, je vais être obligée de m'arrêter. Il va enlever la chaussure, remettre la chaussette, et il peut le faire 5, 7, 10 fois, comme il peut le faire une fois, si ça lui suffit.
Il y a des éléments déclencheurs quand même, par exemple, je sais pas, l'apparition du TOC de la chaussette. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ?
En général,
que ça a été depuis le début ?
En général, oui, c'est une situation de stress. Ça peut être comme l'année dernière, la reprise de l'école, la rentrée scolaire. Mmh. Ou quelques jours après, sur la route, systématiquement, il s'arrêtait et il remettait toujours ses chaussettes, en fait.
C'est ça.
Voilà. D'accord. Situation de stress.
Oui, dès qu'il a une situation un petit peu plus stressante, j'imagine que ça augmente l'intensité des tocs. À quel moment est-ce que vous avez compris que c'était des tocs? À quel moment est-ce que vous avez mis ce mot-là sur cette spécificité?
L'âge de 3 ans, la première crise. Et ensuite, toujours ce souci avec les vêtements où le matin, je mettais un temps inconsidérable à pouvoir l'habiller, même si je préparais la veille. Une fois qu'il mettait les vêtements, en fait, s'il ne se sentait pas à l'aise ou si c'était juste trop serré au niveau de la ceinture, c'était impossible de le laisser avec ce vêtement. Obligé
est,
de...
Voilà. Alors, on est tous parents sur ce plateau, parents, grands-parents. On est avec vous parce qu'on sait à quel point ça peut être déchirant vraiment pour une mère, pour un père. Comment est-ce que vous réagissiez pendant les crises?
Alors, la première fois, j'ai eu très peu de réactions. En fait, je me suis beaucoup interrogée... on a un sentiment de... On est dépassé, en fait. Mmh. Je me suis sentie dépassée. Donc, j'ai échangé beaucoup avec les personnes de ma famille, de mon entourage, mes amis, avec qui je partageais énormément de moments. Et j'ai essayé de me faire aider, en fait. Donc, j'en ai parlé autour de moi, les collègues aussi.
Mais voilà, par exemple, les chaussettes, quand vous dites, bon, voilà, il ne faut pas que le pli dépasse, etc. En fait, vous respectez sa demande, vous respectez son toc, ça veut dire que vous vous adaptez à son toc. Vous n'essayez pas d'aller contre.
Non.
Vous n'essayez pas du de
tout.
Le raisonner.
Avec le temps, non, plus du tout. Au début, je me posais des questions et je demandais avis auprès des professionnels, les psychologues, les pédopsies. Et on m'expliquait qu'en fait, il faut essayer d'accepter, en fait, accepter les difficultés de son enfant et faire au mieux pour qu'il puisse vivre à peu près normalement, en évitant ces crises.
Vous avez compris ce qui a déclenché ces tocs? Les vêtements, par exemple. Pourquoi spécifiquement?
Alors,
les
j'ai eu un avis d'un pédopsychiatre que j'avais rencontré dans une unité qui s'appelle le CAMS, dans lequel il était suivi jusqu'à l'âge de 6 ans. Mmh. Et j'ai échangé avec ce pédopsy qui avait travaillé en néonatologie. Et il m'expliquait qu'il avait déjà été confronté à ce type de situation avec des enfants qui ont passé beaucoup de temps en réanimation. Alors, c'est bon à savoir, puisque c'est vrai que voilà, ça peut servir à d'autres parents. Et il faut savoir qu'en réanimation...
En réanimation, parce qu'il est né
prématuré. De 3 mois. Mmh. Il est né à 6 mois. Et donc...
Peut-être que c'est dû au fait qu'il est resté sans vêtements pendant longtemps, c'est
voilà,
ça?
Voilà, tout à fait. Par mesure d'hygiène, les enfants ne sont pas habillés en néonat. Mmh. Donc, il est resté... il a fait quand même 3 mois et demi de réanimation.
Oui.
Et il m'expliquait que parfois, dans la construction de l'enfance, ces événements traumatiques ressortent. C'est des enfants qui ont beaucoup de soins, qu'on manipule beaucoup et qui restent pratiquement toute la journée en couche. Ils n'ont que la couche, en fait, comme tenue vestimentaire. Et qu'à un moment, dans la construction de l'enfance, ça peut ressortir.
Ça peut les marquer, évidemment.
Voilà, ça peut les marquer et ça peut provoquer cette intolérance, en fait.
Oui, c'est ça. Comment vous gérez le regard des autres, Céline?
Alors, au début, très mal. Maintenant, je me suis faite aider aussi par l'équipe qui encadre IIS, qui me propose aussi de pouvoir me recevoir quand on traverse des périodes assez difficiles, comme les rentrées des classes, le confinement, le déconfinement, bien sûr.
Quelle est sa prise en charge, d'ailleurs?
Alors, actuellement, il est pris en charge par un établissement qui s'appelle le CESAD, que je remercie d'ailleurs pour tout le soutien qu'il m'apporte.
Vous expliquez ce que c'est, le CESAD?
Alors, c'est un service d'éducation et de soins à domicile.
Oui, donc ça, évidemment, c'est pratique.
Voilà. Il faut savoir que on a besoin d'une notification MDPH. C'est un établissement de soins, hein. Ce ne sont pas des séances de... comme il a pu faire de l'équithérapie. Et c'est une prise en charge complète.
Équithérapie, c'est la thérapie par les chevaux.
Tout à fait.
Qui marche très bien sur...
Oui,
qui
a très bien fonctionné chez Elias, qui l'a beaucoup apaisé. J'ai pas pu continuer, malheureusement, où j'avais débuté parce que j'avais trop de route, c'était trop de frais. Il y a aucune prise en charge financière. Donc, c'est un
coup... Oui, il y a tout cet aspect-là, évidemment, qui est très difficile à gérer, j'imagine.
Oui.
Comment est-ce que vous voyez l'avenir aujourd'hui? Comment va Eliès? Est-ce que déjà vous sentez que la thérapie fonctionne? Est-ce qu'il y a des progrès? Et comment est-ce que vous imaginez son avenir et le vôtre?
Il y a des progrès, bien sûr, heureusement. Avec le temps, Eliès a fait beaucoup de progrès, il s'améliore. Et l'avenir, écoutez, j'ai confiance en l'avenir. Je me dis que je pense que j'ai passé le plus difficile avec une errance médicale et de l'incompréhension, en fait, avec un manque de soutien, un manque de tolérance de la part des gens extérieurs. Et j'ai confiance en l'avenir. Je me dis qu'on ne peut que avancer, on ne peut que progresser. Et ça devrait le faire.
En tout cas, il est bien mignon, hein. Il est dans les coulisses, Eliès. Merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin, Céline. On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec le docteur Frédéric Cauchemann tout de suite, parce que c'est vrai que c'est un phénomène qu'on connaît un petit peu, mais on a du mal à en comprendre les causes et les conséquences aussi. Merci beaucoup, Céline.
De rien.
Bonjour docteur Frédéric Cauchemann, merci
Agathe.
D'être sur ce plateau. Vous êtes pédopsychiatre, médecin coordinateur à la clinique Lauréamont de Loos, j'ai bien
dit. Oui, Lauréamont.
Lauréamont, oui, mais à chaque fois je zappe le T, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous pouvez définir ce qu'est un TOC et à quoi on le reconnaît?
TOC, initial de trouble obsession-compulsion. On a une obsession qui est hyper angoissante. Par exemple, j'ai l'obsession d'avoir les mains sales et cette obsession monte. Je trouve une pseudo-solution qui est un geste que je me sens obligé de faire pour pouvoir enfin soulager mon obsession. Je vais prendre du gel hydroalcoolique, je vais m'en mettre. Donc, je suis soulagé un peu. Mais donc, ça envahit la vie parce qu'au fur et à mesure, l'obsession augmente. Mais ça peut être plein de formes d'obsession. Ça peut être une obsession de la symétrie avec des pensées magiques. Si je ne mets pas ce plateau droit, ma mère va tomber malade. Et donc, vous voyez, il y a un côté pensée magique, mais ça devient
pensée
totalement
obsédant.
Pensée
magique, c'est quoi ? Ce sont des pensées d'enfants qui...
Une pensée qui serait...
protectrice.
Quel lien pourrait-il y avoir entre ce plateau droit et ma mère malade ? Mm-hmm. À Poudlard, oui, peut-être, si c'est ensorcelé, mais pas dans la réalité. C'est pour ça qu'on parle d'une pensée magique. Vous voyez, donc, la peur, par exemple, irrationnelle que maman meurt dans un accident de voiture si je ne mets pas mon verre comme ça, par exemple. Mm-hmm. Ça, c'est les pensées magiques qui peuvent être très fréquentes chez les enfants. Et donc, ils vont faire des compulsions de symétrie, tout mettre en symétrie, la chaise doit être droite, etc. Mais ça devient totalement envahissant et épuisant.
David nous demande, en fait, quelles sont les causes des TOC? Est-ce que c'est tout le temps les mêmes?
C'est multifactoriel. Il y a une cause déjà de base qui est génétique. Il y a une forte génétique au niveau des TOC. Ensuite, il y a des facteurs d'environnement. Souvent, c'est un stress sur un stress. Par exemple, un enfant apprend que ses parents sont en train de se séparer et lui disent « Papa et maman, on va divorcer ». Il se retrouve tout à l'heure avec un prof en SVT qui leur montre un film sur les acariens qui grouillent partout sur leur lit par milliers. Et là, c'est un stress sur un stress. Et là, l'enfant va se mettre à devenir maniaque, à épousseter son lit. Et c'est ça le problème du TOC, c'est que vous allez voir, ça prend de l'ampleur et ça augmente à chaque fois qu'on fait ça. Compulsion, on augmente son TOC. Donc vous voyez, ça part souvent de déclencheur à un moment de stress, d'un cumul de stress.
Dans le cas d'Iliès, la mort de son jumeau, typiquement, c'est ce qui aurait pu déclencher.
Oui, et il faut y rajouter la prématurité, parce qu'on sait par exemple que la prématurité, en particulier la grande prématurité, multiplie le risque d'avoir des TOC.
D'accord.
On n'a pas tous plus ou moins des TOC?
Ouais.
Une personne sur deux a une tendance au TOC, c'est-à-dire que...
Regardez voilà, Benjamin, je suis cette personne.
On doit être deux autour de cette table, voilà. Au moins à...
Enfin, c'est Benjamin et moi.
Est-ce que j'ai bien fermé la porte d'entrée?
Oui,
est-ce
ça.
Que j'ai éteint le gaz?
Ouais.
Est-ce que les volets en bas sont bien fermés?
Je me relève pour le gaz, je me relève la nuit. Ouais.
Alors, on ne va pas parler de TOC à partir du moment où ça n'envahit pas la vie. Ça va vous faire vous coucher 20 secondes plus tard, mais à part ça, dans votre vie générale,
ça
n'impacte pas et ça reste supportable. Donc
moi,
là, c'est
plutôt
les petits
la pensée magique.
Du coucher.
Oui, pensée c'est magique, moi, ça. Alors là, si la porte ne se ferme pas avant que je passe, il va m'arriver énormément de malheur toute la journée.
Si la voiture arrive et me dépasse avant que le feu passe au rouge.
J'ai fait ça hier dans ma voiture,
d'ailleurs. Une sur deux, une personne sur deux.
Voilà.
Vous l'avez dit.
C'est rassurant.
On a reçu une question envoyée en vidéo par Mathilde pour vous, docteur.
Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai un TOC. Je me lave entre 15 et 20 fois les mains par jour. Je voulais savoir à quel moment il faut s'inquiéter. Merci.
Alors c'est marrant, c'est l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, celui du gel hydroalcoolique. J'imagine que le Covid a fait exploser ce stock-là.
Oui, tout à fait, ça a fait exploser ça. Et on va s'inquiéter à partir du moment où ça a un impact fort, perturbant vraiment sur sa vie sociale, familiale, professionnelle. Et pour un enfant, sociale, familiale, scolaire. Mmh. Si par exemple l'enfant a juste des petits rituels du coucher et veut que maman lui fasse 3 bisous, ça va. C'est gérable. Tandis que si l'enfant se met à se laver 100 fois par jour, ouais, refuse d'aller à l'école, ne veut plus aller en classe pour ne pas toucher sa table, et que ça perturbe la scolarité ou la vie sociale,
là,
les amis ou la vie familiale, là, c'est une
souffrance. Là, elle dit 15 fois par jour. Moi, ça ne me paraît pas abusé, 15 fois par jour.
En mais... cette période que nous vivons, on doit tous être à peu près à
c'est
ça.
C'est recommandé,
hein, je pense,
même.
Avec les gels,
donc, ouais. Mathilde, tout va bien.
Tout à fait.
Léa vous demande, Jade, ma fille de 10 ans a des tocs de vérification qui deviennent de plus en plus envahissants. Pour gagner du temps, je rentre dans son jeu. Est-ce que c'est la chose à faire ?
Ne pas rentrer dans son jeu, parce que quand on rentre dans son jeu, on crée, on consolide le symptôme. Si vous avez par exemple un conjoint qui fume, c'est une sorte de toc le tabac, puisqu'on a l'obsession d'aller s'en griller une, on a la compulsion de s'en allumer une, on est faussement soulagé, mais on sait que chaque cigarette va aggraver l'obsession. Si vous dites à votre conjoint, vas-y, fume un coup, tu vois bien que t'es un peu stressé, allez, reprends-en une, ça te fait du bien. Ça n'a pas de sens, vous voyez. Donc, c'est pour cette raison logique, on ne rentre pas dans le toc. Alors,
là,
il y a la phase aiguë, la phase de la pleine angoisse, où on va stabiliser son enfant et l'aider à se rassurer. Mais ensuite, on va lui expliquer que c'est un toc, que ça se soigne, qu'il faut faire attention, parce qu'au fur et à mesure, au plus on le fait, au plus on aggrave le TOC. C'est ça le cercle vicieux du TOC. Mmh. C'est qu'à chaque fois qu'on fait sa compulsion, on augmente encore plus les obsessions pour la fois suivante.
Donc on essaye de retarder peut-être. C'est comme ça qu'on peut accompagner bien en tant que parent.
Oui, et même on peut faire ce qu'on va faire en thérapie, c'est-à-dire une exposition. On va amener son enfant à faire exprès de ne pas mettre son symétrie disant, tu vois, en fait, c'est pas grave. Et on va lui détourner son attention. Tiens, et tu voudrais pas aller à la piscine tout à l'heure ou mercredi? Et puis on va. Et en s'exposant à son TOC, on peut tout à fait déjà l'apaiser.
Docteur, Quentin vous pose une question à 1000 euros.
Oui.
Comment peut-on guérir des TOC?
La thérapie la plus reconnue, publié scientifiquement et en pratique, parce que je l'ai fait pour des milliers de jeunes, c'est la thérapie cognitive et comportementale. Non compliquée, dans cognitif, c'est les pensées. Et donc, on va expliquer, par exemple, moi je fais un petit dessin pour expliquer aux jeunes qu'il y a une obsession, c'est comme dans le haut, vous voyez, d'obsession, ça tourne, c'est comme le cercle dans Windows quand ça plante. Et ça plante, je suis en train de réfléchir. Et à un moment, je suis obligé de faire le C de compulsion pour faussement me soulager, mais en fait, la compulsion va aggraver à chaque fois l'obsession. Et ça tourne donc de plus en plus vite. Ça, c'est... Donc, j'explique en détail à tout ça. Et ensuite, il y a la partie comportementale, et là, on va soigner les comportements. Le point essentiel, c'est l'exposition avec la prévention de la réponse. C'est-à-dire, et la réponse compulsive habituelle. Si j'ai un toc de la saleté, je vais demander aux jeunes de prendre sa semelle, de frotter sa main sur sa semelle et de se dire...
C'est dur.
Ah oui, c'est dur. Mais, et ensuite, on va travailler sur le fait qu'il peut l'accepter, qu'il peut réussir à... Donc, il y a plein de techniques de relaxation, on va faire de la cohérence cardiaque, on peut y ajouter plein de choses, pour aider le jeune à tenir bon. Mais donc, vous voyez, à la fois le travail sur les pensées et à la fois le travail sur le comportement et pour réussir à ne plus faire sa compulsion.
Donc, on est dans tout l'inverse de ce qu'une téléspectatrice disait tout à l'heure, c'est-à-dire je l'accompagne dans ses tocs en me disant comme ça, on passe à autre chose. C'est l'inverse. On met les mains dans le caca de la chaussure. Quoi.
Tout à fait.
Alors, Paul, lui, vous dit « Je souffre de TOC depuis l'adolescence. Je les gère beaucoup mieux depuis quelques années.
Oui.
J'ai un fils de 4 ans qui présente des troubles similaires aux miens. Est-ce que c'est génétique ?»
Il y a une part génétique, mais ce n'est pas 100% génétique. On a, par exemple, si vous prenez des jumeaux vrais, dans 70% des cas, l'autre jumeau a des TOC également. Tandis que si c'est des faux jumeaux, là, on tombe à 10%. Donc, ça montre qu'il y a une part génétique qu'on sait certaine, mais ça ne veut pas dire forcément, si nous, on est un parent un peu maniaque sur les bords, que nos enfants le seront.
Et en revanche, à noter aussi, vous dites que si vous allez chercher peut-être chez les parents des similitudes quand vous le voyez chez les enfants.
Absolument.
C'est ça.
Karim, il y a des questions pour savoir si vous avez des TOC. Oui, votre TOC, c'est de faire du sport à tout le monde.
Et tout le temps.
C'est bizarre, ça.
Mon principal TOC, c'est que j'ai une kettlebell, c'est une haltère, et qui est au pied de mon lit. Dès que je me lève, je la touche.
C'est un vrai problème, ça, docteur. Ouais. Peut-on cumuler plusieurs TOC, vous demande Julia.
Absolument, chez les enfants en particulier, il est très rare qu'un enfant n'ait qu'un seul TOC. L'enfant va avoir le TOC des chaussettes, le TOC du rangement, de la vérification de ses cahiers. Et ce qui est frustrant aussi pour les parents, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un TOC qui disparaît, et mince, depuis lundi, il y en a un nouveau. Hein, avant, il ne faisait pas ça, mais maintenant, avec son verre, il doit toucher trois fois son verre. Et on a l'impression de ne pas s'en sortir. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait en fait un cumul de TOC, et ça varie. Il y en a un qui disparaît, un autre qui apparaît. Mais,
d'ailleurs, ça va être justement très difficile, vous parliez tout à l'heure, de faire frotter la main sur une chaussure sale. Et ça se trouve, vous soulagez ce TOC-là, mais du coup, ça, on ne fait pas créer un autre à
Alors,
côté.
On fait une liste de TOC. Je fais une liste de tous les TOC avec l'enfant, et on va les classer du plus petit au plus grand. Le TOC à 1 sur 10, le TOC à 2 sur 10, c'est quoi le TOC le plus facile pour toi ? Oh bah c'est les chaussettes. Et on va d'abord s'attaquer au TOC des chaussettes.
D'accord.
On va faire l'inverse du TOC. S'il n'aime pas que sa chaussette soit exactement à la même hauteur, on va lui en mettre une très haute et une très basse. Et on va le faire marcher comme ça, et on va, etc. Donc on va faire des jeux aussi avec l'enfant. On le fait de manière ludique, mais on fait une liste de TOC et on s'attaque du plus petit au plus grand.
D'accord.
Alors là, on parle des enfants, mais est-ce que les formes de TOC sont différentes quand on passe à l'âge adulte ?
Ben, en général, les TOC se stabilisent, justement. C'est-à-dire qu'on en a plein et c'est fluctuant chez l'enfant. Mm-hmm. Et arrivé à l'âge adulte, si on n'a pas été soigné, parce que ça soigne très bien les TOC, hein, rappelons-le, eh bien, on va finalement en garder un principal qui va prendre, mais qui peut prendre des heures et des heures par jour. Par exemple, un TOC de ménage où on va faire 8 heures de ménage par jour à renettoyer, à l'eau de Javel. Donc, en général, ça se stabilise à l'âge adulte.
Quand vous dites quand c'est soigné, il faut forcément aller voir un psychologue ou ça peut se régler
Certaines personnes ont et disent hein, « j'ai eu des TOC dans mon enfance, dans mon adolescence, et puis spontanément, j'ai réussi à me dire « allez, c'est bête que je fais, je vais arrêter tout seul ». Alors, certaines personnes arrivent à s'en sortir seules, mais c'est quand même une grande aide de pouvoir bénéficier d'une psychothérapie et parfois d'un médicament. Et le médicament qu'on va utiliser dans les TOC, c'est les médicaments qui jouent sur la sérotonine. Donc, c'est pour ça qu'un avis médical,
quand
même, est important.
On l'augmente ou
on la baisse ? On va la régulariser. On va faire en sorte que la sérotonine soit stabilisée dans le cerveau.
Est-ce que c'est classique que pendant l'été, pendant les vacances, les TOC, ça s'estompe un petit peu et qu'on retourne à l'école, là, en ce moment ?
Oui, parce que les TOC sont très stress-dépendants. Les TOC, ça fait partie des troubles anxieux. Donc, de manière logique, quand on est au bord de la piscine en plein été...
Généralement, ça va.
Et là, le 4-5 septembre, ça...
Donc, c'est normal, là, si beaucoup de nos téléspectateurs nous regardent en se disant, bah, oui, moi, depuis 2-3 jours, j'ai vu
c'est
réapparaître.
C'est une mauvaise période. Oui,
c'est une mauvaise période, mais ça va passer. Éric, qui est un garçon de 7 ans, se demande quelle est la différence entre les TOC et les TIC.
Alors, le TIC, c'est un petit mouvement involontaire. C'est involontaire et même souvent, on ne s'en rend pas compte. C'est l'autre qui vous dit, mais t'as un tic des paupières, là Ah bon, je ne savais pas. Tandis que le TOC, on l'a bien vu, c'est un geste volontaire, un rituel conscient. Et on se dit, mais j'arrive pas à faire autrement, je suis obligé de mettre ce truc droit, je supporte pas. Je sais bien que c'est ridicule, mais je peux pas faire autrement.
Ça va mieux depuis que vous l'avez mis droit, là, ça me stressait depuis tout à l'heure.
Donc là, il y a quelque chose de volontaire dans le TOC et d'involontaire dans le TIC.
Mais c'est pas pour autant que le TIC est plus simple à gérer, je pense.
Non, tout
Encore
à fait.
Encore moins, le TIC, vu qu'il est involontaire.
Et les TIC sont aussi très stress dépendants. Effectivement, c'est difficile à gérer les tics.
Mais il y a beaucoup d'enfants qui ont des tics. Hein. Nous, on a eu un problème.
Aussi, ouais.
Non, mais c'est vrai, moi, j'ai mon fils, dès qu'il a un moment de stress, il fait... En permanence. Et puis après, ça passe. C'est vraiment dépendant du stress.
Vincent Lindon est le plus célèbre.
Oui, Vincent Lindon.
Vincent Lindon, c'est hyper intéressant, parce que quand on le voit en interview, il a effectivement beaucoup de tics. Ouais. Et en revanche, quand il est au cinéma, il n'y en a pas du tout. Donc, comme s'il y avait quand même une part consciente.
Oui, mais les personnes qui ont des tics arrivent à les contrôler en partie. À l'école, ils font en sorte de faire « j'ai mes copains, quand même, je vais m'en faire ». Et à la maison, quand on arrive, alors là, c'est l'explosion et c'est les parents qui ont l'impression que… Donc ça, c'est très aussi… Il y a une partie de contrôle, même si le tic en lui-même est involontaire.
Alors, Margot vous demande comment différencier les TOC et l'autisme.
Alors, question complexe. Dans les troubles autistiques, ce qu'on appelle aujourd'hui les troubles du spectre autistique, on a des rituels. Mais des rituels hein, qui sont des rituels pour s'apaiser et qui vont être très, très, très stéréotypés. Hein, c'est-à-dire que le patient qui a un trouble autistique va aligner ses voitures de la même façon pendant des heures. Et à la rigueur, il ne faut pas trop y toucher dans les rituels du trouble autistique parce que c'est super important pour l'enfant pour se stabiliser et faire en sorte que sa journée se passe à peu près correctement. Oui. Donc, on ne va pas du tout avoir les mêmes stratégies que dans un TOC pur et dur où là, il n'y a pas de trait autistique, et là, on va pouvoir s'attaquer de front à une lutte anti-TOC. Hein, donc, les rituels d'un trouble autistique vont s'associer aussi avec plein d'autres signes. Dans l'autisme, on a un enfant qui a des difficultés de communication avec l'autre, qui ne va pas aller vers l'autre, qui a des obsessions aussi très monoïdéiques. En général, il va être passionné des trains. ou de tel type de carte. Donc il y a plein d'autres symptômes qui sont bien différents entre l'autisme et les TOC. Mmh.
Voilà, donc il faut un bon diagnostic.
Oui.
Vu que ça ne se gère pas du tout de la même façon, c'est important d'avoir le bon diagnostic.
Et alors justement, vous dites, bon, on n'interrompt pas le rituel des enfants atteints de troubles autistiques. Cyrielle, elle, sa fille de 12 ans, a des TOC. Elle ne maîtrise pas sa colère quand on interrompt ses rituels. Oui. Nous sommes suivis par une psy depuis 6 mois, mais elle ne voit pas trop de changements. Est-ce que vous auriez des conseils ?
Bon, déjà, être sûr que la psy fait bien les fameuses thérapies cognitives et comportementales. Il y a d'autres thérapies qu'on peut utiliser. Moi, j'utilise aussi beaucoup avec les jeunes, et c'est nouveau, l'EMDR, des thérapies par des mouvements des yeux. Donc, il y a des thérapies qui ont prouvé leur efficacité, et il faut que les parents le sachent et demandent bien à leur psychologue si c'est ces thérapies-là qui sont publiées scientifiquement et que fait la psychologue.
Ça, donc, c'est TCC première chose. Et EMDR, c'est ça les
EMDR,
deux
EMDR, il y a... Voilà, il y a d'autres thérapies, on ne peut pas faire une liste complète parce qu'il y en a d'autres qui sont scientifiquement reconnues. Et sur les crises de colère, on peut y ajouter aussi d'autres prises en charge. Ça peut être penser à l'alimentation. Moi, sur les crises de colère, je travaille beaucoup avec les enfants sur le microbiote, c'est-à-dire qu'est-ce que mange l'enfant. Parce que les crises de colère sont très liées à l'alimentation, trop sucrées, trop gras. Donc il faut aussi penser à l'alimentation. On va faire des exercices de relaxation, d'apaisement, de sport.
Ah oui, le sport, justement.
Et ça,
quelle
c'est
est la place
super
du sport
important. Le sport a une grande, grande place. Dans mon service, tous les enfants font du sport tous les jours. Parce que ça a une part anti-stress, anxiolytique. Et donc c'est une co-thérapie, le sport. Ouais. Absolument.
Et trop d'écran aussi, ça peut être un.
Bien sûr. Bien sûr, limiter les écrans. On va faire un peu de digital détox avec les enfants. Leur faisant lire, par exemple, l'art plus que d'être devant un écran 8 heures par jour.
Alors, Laurence, vous dites, j'ai 31 ans, je voulais savoir si les TOC... Enfin, je vous ai dit bonjour avant, j'ai oublié de le dire.
Bonjour, Laurence.
C'est important, c'est impoli. Je voulais savoir si les TOC peuvent apparaître à l'âge adulte et si on a eu des TOC enfants, est-ce qu'ils peuvent disparaître puis réapparaître?
Oui, déjà, quand on a eu des TOC enfants, même quand on est soigné, on va garder une tendance quand même, une tendance à être un peu maniaque, mais on a appris à les outils pour lutter. Si on voit qu'un TOC réapparaît, on se dit « Ouh là là, je commence à... En ce moment, je reprends mes petites fiches des maternelles et je les mets bien droit. Non, je ne vais pas commencer comme ça, je les mets comme ça et puis... et donc, ça, c'est déjà une tendance. On a appris à faire. Mais il y a bien évidemment des TOC qui commencent à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans.
D'accord.
Ça peut arriver, il n'y a pas d'âge pour commencer les TOC.
C'est intéressant parce qu'il y a... on sent un peu le besoin d'être protégé, un côté très enfantin du TOC chez l'adolescent. Mmh. Et puis, ça a aussi un lien avec la superstition. Enfin, c'est complexe, quoi.
Oui, les fameuses pensées magiques.
Voilà.
Voilà, merci beaucoup au docteur Kaufmann d'être venu nous voir dans la maison des maternelles. Et merci, évidemment, à Céline pour son témoignage. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. On se retrouve avec un nouvel épisode dès demain, dès jeudi, pour un thème qui, je vous l'annonce déjà, est extraordinaire. Vous savez, à propos de ces accouchements dans des lieux originaux, on a déjà parlé de ces femmes qui doivent accoucher en voiture, au bord de la route, sur la route de la maternité, voire dans un train, voire dans un avion. Eh bien, demain, nous allons recevoir quelqu'un qui a accouché dans un hélicoptère. Voilà, dans un hélicoptère, imaginez, mettez-vous à sa place. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur les différentes plateformes. Nous, ça nous aide beaucoup pour avoir un meilleur référencement, donc ce serait super. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast des maternelles pour ne rater aucun épisode. On se retrouve donc dès demain sur France 2, dès 9h25. À ciao tout le monde, à demain j'espère.